Bien, bonsoir. Un homme qui crie, donc c'est voilà un des films de Mamadou Sadi Harun, un cinéaste tchadien. Et un homme qui crie, justement, ça présente un peu la période, du sombre de l'histoire du Tchad. La période excusez-moi si je peux me perdre. Et donc le film que vous venez de voir là, à une période donnée, à partir de 1982 à 1990, on avait un président qui s'appelle Hissène Habré, vous en avez entendu parler. Et donc, à cette époque-là, il y avait la terreur, il y avait la dictature. Et le gouvernement a demandé des efforts de guerre, c'est-à-dire qu'il faut soutenir le gouvernement contre les rebelles, comme c'était un pouvoir qui était installé par la terreur, et donc il y avait pas mal de gens, des groupes rebelles qui se formaient, qui venaient, qui sortaient, qui revenaient, et donc il y avait tout le temps ça, et donc on demandait aux gens de contribuer pour soutenir l'armée, et donc c'est l'effort de guerre, ils ont appelé ça l'effort de guerre, cet effort de guerre là. C'est-à-dire que les gens, ils donnaient de l'or, ils donnaient de l'argent, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et ceux qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir, qui n'avaient pas d'argent ou n'avaient rien à donner, ils donnaient leurs enfants, leurs propres enfants, pour aller combattre aux côtés des rebelles. Et Mamadou Sadi Harun a essayé de retracer un peu, il a sorti un peu cette période-là dans ses films. Donc, je vais vous laisser le temps. Vous poserez les questions si vous voulez qu'on repart un peu en arrière dans l'histoire du Tchad. Au vu de vos questions, peut-être qu'on essaiera. Voilà, pour le moment, je vous laisse poser des questions si vous avez des questions à poser.
Excusez-moi, parce que ce que je viens de découvrir, là, c'est un peu la musique. Quand tu me parles de que par rapport à l'effort de guerre, de demander de l'argent, de demander de l'or, ça m'étonne un peu pourquoi. Parce que quand on sait que Hissène Habré a été soutenu par la France,
oui.
Et comment se fait-il que la France n'a pas soutenu ce bout et qu'il fallait aller demander l'effort de guerre à la population, ça, je comprends pas.
Ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire que la France n'a pas soutenu. La France a soutenu. D'ailleurs, c'est la France qui l'a mené au pouvoir et Hissène Habré. Depuis l'indépendance du Tchad en 1960, comme la plupart des pays africains, en 1960, le Tchad a vu son premier président, François Tombal Mbaye, qui était arrivé au pouvoir. Et donc, très tôt, il a commencé à avoir des soubresauts, des problèmes et des rébellions qui s'est créées. Dès 1965, il y a déjà eu une révolte à Mangalmé, au nord du Tchad, pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, un peu au nord du Tchad. Et donc, c'était parti de là. Et donc, à partir de Mangalmé, on avait ce qu'on appelait le Frorina, le Front pour la Libération Nationale du Tchad, le Frorina. Et puis après, ça s'est enchaîné, pour ceux qui ont connu un peu l'histoire de la France avec le Tchad, avec l'affaire Clost, tout ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des Français qui ont été enlevés au nord, qui ont été gardés pendant longtemps et tout ça. Et donc, ça s'est enchaîné. Et donc, du coup, Hissène Habré faisait partie du Florina. C'était les fondateurs de Florina avec Goukouni Wadei et tout ceux-là qui étaient au nord. Et il y avait, à la suite de tous ces problèmes-là, il y avait une négociation À partir de 1977, il y avait une négociation. La France a parrainé une négociation entre les rebelles du Fort-Lunan, Issenabré, Goukni, Wedei, et le pouvoir central qui était justement à cette période-là par le général Malou. Parce qu'en 1975, il y a eu un coup d'état militaire qui a fait sauter François Tomba Ndwaye, et donc il y avait un autre général qui a pris sa place. Et donc, il y avait une négociation entre le gouvernement et les rebelles. Cette négociation a abouti à un gouvernement d'union nationale où Issenabré était devenu premier ministre et Malone était le président. Voilà. Et donc, là-dessus, les Frelinas, ils étaient rentrés indépendants, mais ils avaient... ils conservaient tout le pouvoir militaire. Voilà. Ils avaient leur armée à côté et... Du coup, un an plus tard, il y avait la guerre civile qui a éclaté, parce que ça ne marchait plus, l'accord qu'ils ont signé, il y avait trop de contraintes, parce qu'il fallait pour une décision, il fallait que le Premier ministre signe, le président signe et tout ça. Et donc, finalement, ils n'arrivaient pas à faire fonctionner l'accord. Et donc, il y avait une guerre qui s'est éclatée, une guerre civile qui s'est éclatée, et qui a divisé, donc ça a éparpillé tout le monde dans la capitale et ça a créé un gouffre total. Et donc, cette période de 79 à 82, il y avait un autre gouvernement d'union nationale qui s'appelait Gound, où il y avait Goukouni Wadei qui était au début dans le Fourlina avec Issenabré. Ils se sont séparés et lui, il est venu assurer. C'est lui qui était le président de ces gouvernements d'union nationale. Et donc, peu de temps après, en 82, le 7 juin 1982, Issenabré est revenu et il a pris le pouvoir militairement. Donc, il a chassé Goukouni Wadei et donc c'est lui qui est devenu le maître. Il a pris le pouvoir. Et puis après, il a étendu son pouvoir jusqu'au sud, enfin, sous toute l'étendue du territoire, quoi. Donc, il était devenu, président. Et il a géré le pays de 1982 à 1990. Donc c'était pendant cette période-là qu'il y avait toutes ces atrocités et tout ça. Mais la France était toujours présente. La France était toujours présente jusqu'à la conférence de Gaulle où Issenabré a contredit Mitterrand. La France était toujours, la France soutenait toujours les actions, ils suivaient toutes les l'expertise militaire et tout ça, c'est assuré par la France, la formation des militaires, c'est la France qui assurait. Donc voilà, la France les soutenait. Mais ça n'empêchait pas au président Issenabré de pouvoir installer ce qu'il voulait installer, quoi.
Je vais encore poser des autres questions. Vous savez que le procès de Issenabré a eu lieu au Sénégal.
Oui.
Vous savez comment est-ce que ça se passe, parce que cette histoire, par exemple, de la Cour pénale internationale, il n'y a que les Africains qui y vont, que les autres n'y vont jamais. Alors comment est-ce que le peuple italien a pu, ils ont vécu ce procès et la condamnation de Issenabré à
Ça dépend du. Ça dépend de dans quel camp on se trouve, en fait. C'est vrai que tout le monde attendait ces procès, enfin. Tout le monde attendait que Issenabré soit jugé, quoi. Parce que durant le règne d'Issenabré, il a fait quand même plus de 42 000 morts, quoi. Qui est comptabilisé durant toute cette période-là. Les gens qui sont tués, qui sont enlevés, qui sont tués. Voilà, qui sont torturés dans des prisons. Et tout le monde attendait que Issenabré soit jugé. Et le problème, c'est que Issenabré, pendant qu'il était au pouvoir, son chef d'état-major, enfin, son bras droit, c'était l'actuel président de la République. Et donc, c'était la personne qui a commis plus de. Voilà, qui a tué plus du monde dans le pays. Et c'est vrai que les gens souhaiteraient, aimeraient. Que le président actuel soit jugé en même temps qu'Issenabré, par exemple. Mais comme c'est lui qui est au pouvoir, et il a fait juger Issenabré, et donc lui, il est resté. Et donc c'est vrai que c'est un travail inachevé. Pour, ça dépend de quel côté on se trouve, quoi. Ceux qui souhaiteraient que Idriss Déby soit jugé trouvent que c'est un travail inachevé, c'est un travail incomplet. Mais ça reste symbolique, on va dire, en tant que les présidents de la République de cette époque-là, et qu'ils soient jugés, et qu'ils soient jugés voilà, en Afrique, ça reste symbolique et c'est important, le côté symbolique. Oui.
Oui. Quelle est la situation actuelle pour Tchad ?
La situation actuelle au Tchad, le président de la République qui est là, Idriss Déby, comme j'ai dit, qui est là depuis 27 ans, il vient de se faire réélire là au mois de mai dernier.
Il y a toujours une immunité contre lui, l'impunité.
Ben, il est le président de la République en tant qu'il est au pouvoir. Tant qu'il est au pouvoir et tant qu'il a encore des soutiens, c'est surtout ça. C'est les mêmes soutiens occidentaux, ils ne l'ont pas encore lâché. Donc il n'est toujours pas un dictateur tant qu'il n'est pas lâché. Parce qu'on n'entend pas parler. On entendra parler dès le lendemain s'il est lâché, qu'il est dictateur, il a épargné. Il a volé telle somme, il a fait ceci, il a fait cela. Pour le moment, on n'entend rien. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore avec lui. Tout se passe bien. Mais voilà, ça fait depuis qu'il est investi pour son quatrième mandat, là. Depuis 3 mois, les fonctionnaires ne perçoivent pas leur salaire. J'ai des parents qui sont là-bas. Et jusqu'à là, le salaire du mois de septembre n'est pas encore payé. Nous sommes au mois de novembre. Voilà, on a exploité le pétrole, on est un pays pétrolier. Voilà, on ne sait pas où est-ce que l'argent est parti.
D'où les conflits.
Pardon ?
D'où la guerre et les conflits.
Voilà. Mais voilà, pour le moment, il arrive à... Il s'est entouré des gens, il s'est entouré de son clan, de sa famille. Et voilà, il règne en maître. Et il a l'armée qui est acquise à sa cause. Et qui sont. Voilà. Et il a le soutien des Occidentaux. Donc pour le moment, il ne craint rien, quoi. Donc il est là. Et voilà, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il est toujours là. Oui.
Est-ce qu'il y a des groupes de population identifiés et avec quelle base unitaire qui peuvent constituer une opposition à ce gouvernement ? Est-ce qu'il y a des clivages qui s'opposent, qui sont distincts, qui sont bien identifiés, ou est-ce qu'il y a, pour parler simple, un bordel général qui est uniquement commandé par des intérêts personnels liés au pétrole ou à des intérêts économiques directs ?
La situation est un peu plus complexe là-bas au Tchad. Il y a une opposition qui est bien identifiée. Il y a une opposition qui fait son travail. C'est vrai qu'une grande partie des chefs de l'opposition sont des gens qui, à un moment donné, ont travaillé avec lui avant de se retirer. Pour pouvoir se constituer en opposition. Mais étant donné qu'il a tout le pouvoir, il arrive à faire en sorte que l'action de l'opposition n'a pas vraiment de poids, en fait. Et il arrive aussi à diviser l'opposition. Et donc, en les fragilisant, il renforce, lui, son pouvoir. Et donc, il empêche les forces de pouvoir s'unir et pouvoir, le bousculer. Donc, il a cette stratégie-là qu'il utilise depuis qu'il a pris le pouvoir. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et le pétrole est venu, permettre d'acheter les armes et puis d'asseoir son pouvoir, quoi.
C'est pas des compagnies étrangères qui détiennent le pétrole.
Si, c'est un consortium Exxon, Mobil, Petronas. Et... Mm. Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi une montée de l'extrémisme islamique
au Tchad? Oui, il y a eu quelques 2 ou 3 attentats dans la capitale, oui.
Et ça, le président...
Et puis, surtout, la partie ouest du Tchad, vers le lac Tchad, là, il y a pas mal des groupes, puisque c'est... Le Tchad, il est situé, c'est-à-dire qu'au nord, c'est la Libye, à l'est, c'est le Soudan, et à l'ouest, on a le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Et donc, sur cette ligne-là, on a les Boko Haram qui partent du Nigeria et qui font comme ça au Niger, et voilà, ils sont sur cette partie-là. Et donc, ils attaquent régulièrement le lac Tchad, par exemple, là, la population qui est sur cette partie-là. Ils sont, voilà.
Et quelle est la position du président par rapport à ces incursions, à ces...
Ben, il est assez vif sur cette question parce que il a envoyé son armée pour combattre l'islamisme au Mali et il est parti aussi faire la guerre au Nigeria contre les Boko Haram. Mm-hmm. Donc sur cette question il est assez vif, hein, je crois. Voilà, et ça lui permet d'asseoir son pouvoir en même temps et puis de bénéficier des soutiens des pays occidentaux. Donc de ces côtés-là, je crois que voilà, il maîtrise très bien. Donc là, il le gère très bien, ouais. Et, comme tout. Les...
Selon vous, quelle sorte des populations aujourd'hui, leur vie quotidienne, ça ressemble à quoi? Il y a une grande différence, je pense, entre la grande ville et le reste, mais c'est comment vit le Tchadien moyen, entre guillemets, aujourd'hui.
La situation est assez difficile, hein, pour la population, depuis toujours d'ailleurs. Et depuis, on a exploité le pétrole, la population pensait que le pétrole allait améliorer son quotidien, mais voilà. Ça n'a pas été, au contraire, ça fait augmenter les prix des choses. Mais en termes de recettes, voilà, la population n'a rien eu, donc au retour. Et finalement, maintenant, avec la baisse du prix du pétrole, là, et du coup, le pays est retombé dans une situation assez difficile, comme je venais de le dire. Hein, déjà, les fonctionnaires ne gagnent pas leur salaire, donc ça présente un peu la situation, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et même en termes d'investissement, rien n'est fait et tout ça, donc il n'y a pas grand-chose qui est fait là-bas. Et donc, c'est vrai que la situation est assez précaire pour les gens qui vivent là-bas.
Et la situation des femmes, dans le film, on sent un respect pour les femmes, on sent une certaine force, une certaine reconnaissance face des femmes. C'est toujours comme ça.
Le respect pour la femme.
Oui, dans le sens où...
en termes d'égalité, de ce genre de trucs comme ça.
Oui, et puis de l'égalité avec l'homme. Ce qui n'est pas le cas dans les pays arabes, par exemple. Je demande comment ça se passe. Et puis, quand les pays s'islamisent, les femmes perdent leur pouvoir, sans devenir esclaves.
Oui. Cela dit, les femmes, elles ont toujours le pouvoir. Hein. Dans le couple, je veux dire. Hein. Mm-hmm. Dans la société, peut-être pas, mais dans le couple, les femmes, elles ont toujours le pouvoir. Ça. C'est vrai que chez nous, en tout cas, ce que je connais, pour moi, là, la situation, elle n'est pas pareille comme en Occident. Mais la femme, elle est respectée. Elle est respectée. Elle est aussi, comment dirais-je, dans une certaines mesures, c'est vrai que on arrive à faire en sorte que les femmes restent à leur place. Mais les femmes, elles sont respectées, en fait. Voilà. Mais le respect, l'égalité et tout ça, entre l'homme et la femme, ça dépend aussi du pouvoir d'achat, en fait. Il faut que la femme arrive à se prendre en charge, il faut que la femme arrive à avoir un emploi, il faut qu'elle arrive à être autonome, en fait. C'est très important. Mais tant que la femme n'aura pas son autonomie, la question d'égalité et tout ça, c'est quand même c'est compliqué, ça dépend, ça varie. Cela dit, au niveau national, il y a des textes réglementaires, des lois et tout ça, il y a des choses qui existent. Voilà, mais l'application sur le terrain, ça c'est une autre histoire.
Est-ce que les ethnies qui priment encore, qui dominent encore?
Oui, il y a toujours.
Mais donc avec la base de la patriarcat ou de la
patriarcat? Patriarcat, oui.
Patriarcat. Et c'est quoi l'ethnie majoritaire?
Chez nous, l'ethnie majoritaire, non. Là, comme ça, on est à 352 langues. Donc, enfin, voilà. Donc, ça veut dire que ça représente ce que ça représente. Et on est à 53% musulmans. Et le reste, à peu près 5% animistes. Et puis le reste, c'est chrétien, quoi. Voilà. Et une grande partie du nord, à partir de la capitale vers le nord du Tchad, est musulman, quasiment, à l'exception d'une petite région un peu au nord, le Guéra, qui est un peu chrétien et musulman, quoi. Mais tout le reste, c'est quasiment musulman, à partir de la capitale vers le nord. Et puis le sud, c'est chrétien, quoi, et animiste, on va dire. Nous sommes à 13 millions d'habitants il y a 2 ans.
13 millions d'habitants?
Oui. Il y a 2 ans.
2 fois la population de la Suisse.
Ouais.
Bref, pour donner une image.
Voilà. Et puis à 1 284 000 km² de superficie. Voilà, c'est un grand pays.
Anissa, peut-être compléter un peu par rapport à ce que madame a dit tout à l'heure, par rapport au pouvoir de la femme.
Oui.
Entendant ici, par exemple, on dit que les femmes africaines sont très soumises. Non, madame, elles ne sont pas soumises à ces femmes africaines. C'est le problème de culture, c'est le problème de tradition. La femme chez les Africains, la femme a un grand pouvoir. Un grand pouvoir. Que ce soit le régime matriarcal ou matriarcal, la femme a un très grand pouvoir. Donc, quand j'entends, par exemple, ici, la femme africaine, elle est insoumise, elle n'est pas soumise, c'est une question d'amour.
Je ne crois pas que je dis ça. Hein.
Non, moi j'entends ça ici.
Ah oui, mais moi je
ne
pense pas du tout.
Je donne un exemple. Chez nous, par exemple, l'homme ne peut pas faire la cuisine, le ménage. Un homme qui fait la cuisine, fait le ménage, c'est un motif de divorce. Vous voyez? Une femme qui prépare, qui fait sa cuisine, l'homme n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine et ouvrir le casserole, non. Voilà, donc c'est une question de tradition et de culture aussi. Donc, à un moment, la femme a toujours un grand pouvoir.
En fait, je pose cette question parce que j'ai toujours remarqué que les femmes africaines avaient une grande personnalité, que facilement, elles faisaient du business, même dans le désert, elles savaient faire les échanges, etc. Qu'elles avaient une place, comme vous dites, un pouvoir. Elles avaient une place qui est reconnue par toute la communauté. Qu'elles sont puissantes. Et j'ai remarqué que la montée de l'islam faisait que certaines, je m'étonnais même que les Africaines se voilent, parce que par rapport à leur personnalité, ça me paraissait complètement contradictoire qu'elles adoptent ce côté-là de l'islam. Elles ont l'air tellement libres et épanouies et avoir un rôle dans la société et dans la famille, que je me demandais pourquoi elles, tout à coup, ça, elles l'acceptaient. Chez les femmes arabes, elles se sentent toujours soumises. C'est plus naturel pour elles, mais pour les Africaines, c'est surprise. C'est pour ça que je vous demandais comment ça se passe maintenant au Tchad, où il y a des femmes africaines que moi je considère comme puissantes de par tempérament.
C'est la situation du pays fait aussi que les femmes là-bas se battent beaucoup plus. Se battent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent souvent avec des orphelins, souvent tout seul dans des situations où il faut voilà, c'est elles qui font les efforts pour amener quelque chose, voilà, au foyer par exemple. Et on dit souvent, mais comme la femme actuellement, la femme tchadienne, on va dire, voilà, la fonction publique par exemple, les fonctionnaires, on va dire qu'il y a plus des hommes que des femmes. Et maintenant, dans des situations pareilles où il n'y a pas de salaire, c'est les femmes qui se débrouillent pour voilà, pour réchauffer le foyer, quoi, pour allumer, voilà, il faut qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait du sel, quoi, dans la maison. Donc voilà, les femmes se battent, les femmes elles sont courageuses. C'est vrai que l'évolution fait que à un certain moment le niveau culturel et tout ça, il y a des gens qui sont encore réfractaires sur un certain nombre de choses. Voilà, mais en termes de respect, moi, ça peut être culturel aussi, hein, avec un peu de recul, on peut dire que les femmes sont respectées, mais c'est dans la culture, il faut l'apprendre dans la culture pour savoir si elles sont respectées ou pas. Mais dès qu'on le sort du contexte, c'est pas vérifiable, c'est pas, voilà, on ne peut pas tout se vérifier. Comme Thiam venait de le dire, c'est vrai que pour une femme africaine, on va dire que c'est du formatage et tout ça, mais le fait qu'un homme peut entrer dans la cuisine pour faire la cuisine, ça veut dire que l'homme est venu lui prendre son foyer, en fait, en quelque sorte. Et donc, voilà, ça peut constituer, voilà, les divorces, ça, c'est, voilà, ça, c'est tout de suite.
Et tu reviens dans la cuisine de ta femme.
Voilà. Les contextes sont un peu pareils. Mais, voilà, au-delà de tout ça, il faudrait aussi se dire que les choses évoluent, hein. Il y a voilà, il y a des cultures qui s'entrechoquent, qui se croisent et voilà, et qui évoluent ensemble. Donc ça bouge.
La diffusion d'internet sur le territoire, comment ça se passe?
Nous on est le dernier en Afrique centrale en termes d'internet. On a fait passer tous les fibres optiques et tout ça il y a à peu près 4 ans ou un truc comme ça. Et puis après, il semblerait qu'on lui aurait conseillé que non, c'est très dangereux. Après l'histoire des printemps arabes et tout ça, là. Et donc c'est tout verrouillé, quoi. Voilà. Au Tchad, c'est le dernier en termes d'internet.
Il y a des femmes dans la politique ou pas?
Oui. Il y a pas mal de femmes au gouvernement et tout ça.
Mais du côté du gouvernement ou dans les opposants, un peu les deux?
Ah, les deux, les opposants, à un moment donné, ils sont. Ça tourne, hein. Donc il arrive qu'à un moment donné ils sont opposants et puis après ils viennent, voilà, ils deviennent la majorité. Donc du coup, donc voilà, on arrive à avoir de tous les côtés, des députés et tout ça.
Mais il a mis en place sa famille, sa propre famille, non?
Oui. Ouais. Sa famille, voilà.
Partout.
Voilà. Son fils vient d'acheter un jet privé. Donc, voilà.
Et l'avenir au niveau politique, comment vous le voyez? Il arrivera une fois à lâcher le pouvoir et ou bien encore.
Il a quel âge lui?
Il a près de 70 ans par là, je crois, il me semble. Je connais pas bien.
Il a 64, 65 ans.
Oui, par là. Ouais.
Par contre, pour être complète encore, parce qu'on parle des femmes. Et si moi j'entends ici parler, par exemple, les Africains ont dit voilà, les Africains sont polygames, patati patata. La polygamie africaine est économique. L'économie, pourquoi? Parce que plus tu as plus de femmes, plus que tu manges bien. Donc, par exemple, si tu as des visiteurs, il y a beaucoup de personnes. Quelque part, quand on parle de la polygamie, moi ce qui m'étonne, c'est que parce que aujourd'hui, la polygamie est officielle. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 femmes qui les ont épousées, qui les ont dotées. Parce que dans la tradition africaine, si tu ne dotes pas, ce n'est pas ta femme. Par contre, ici, moi, je vois des hommes qui ont des maîtresses, 3, 4, 5, 6, 4 maîtresses, qui en font des gosses. Voilà, et puis ces enfants, on les appelle des bâtards. Chez nous, les enfants, il n'y a pas de bâtards. Chez nous, chaque enfant a son père, sa mère biologique. Donc voilà, c'est une question de tradition. Pour revenir à la femme, quand vous prenez la génération de nos mamans, de nos parents, à nous, la femme n'allait pas à l'école. Vous voyez ? Mais maintenant, cette génération actuelle, la femme va à l'école. Et c'est là où vous voyez que même les pouvoirs de la femme s'accentuent beaucoup plus qu'avant. Les femmes qui ont été émancipées, qui ont été à l'école, sont devenues beaucoup plus matures que nos parents. Bon voilà, ça évolue la tradition, petit à petit.
Pourquoi macho, c'est juste l'égalité, non ?
Pardon ?
Pourquoi macho, c'est juste l'égalité, non ? L'école.
L'égalité, je n'ai pas compris.
Macho, c'est juste l'égalité.
Oui, ça dépend comment vous comprenez, parce que moi, par exemple, quand vous parlez de femme macho, moi, je l'interprète pas comme vous. Parce que chez moi, par exemple, la femme ne peut pas regarder son homme dans les yeux comme ça. Ça ne se fait pas.
Elle ne peut pas quoi ?
Regarder son homme dans les yeux. En lui parlant pendant que tu regardes dans les yeux, ou tu n'es pas ton mari. Non, ça ne se fait pas.
Ah bon ?
Ah oui. Une question de culture, une question de respect.
Mais c'est...
C'est pas notre faute, nous, la pauvreté, c'est la tradition. C'est comme la religion que tes parents travaillent dans la vie, tu trouves la religion que tes parents t'adoptent. Et quand tu grandis, tu te décides.
Mais tiens, entre hommes aussi, on ne fixe pas. Il n'y a pas qu'entre hommes et femmes, c'est aussi.
Le regard.
Oui,
le regard, il y a regard. Voilà. Regard amoureux, ça c'est autre chose. Ouais. Mais quand tu es en colère, regarder ton mari en face comme ça, il pendant ça, c'est pas. De toute façon, l'éducation à la base, quand la fille va, avant d'aller chez son mari, on lui apprend, on lui dit comme ça, quand tu pars, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est à la base que vous voulez. Je ne dis pas que tout est bon, non. Parce que moi, c'est pas grave, mais moi, il y a certaines choses qu'aujourd'hui, je n'accepte pas. Voilà.
Oui, enfin, au 18e, les jeunes filles devaient baisser les yeux aussi. C'était bon.
Non, mais c'est... Voilà. C'est même ici, il y a toujours cette différence. Il y a, on ne va pas dire que, voilà, on connaît, on habite dans des petites villes, on connaît, nous autres on connaît, voilà, entre ce qui se dit officiellement ou ce qu'on voit à la télé, tout ça, c'est pas forcément ce qui se retrouve dans les petits coins et dans les petits, voilà, dans les petits des appartements, les maisons qu'on voit, quoi. On sait. Et quelle est l'étendue du pouvoir de l'homme dans un foyer ici? On connaît, on voit, on sait ce que c'est. Voilà. Donc, c'est des choses qui doivent évoluer. Comme quelqu'un disait, c'est le putain de facteur humain, excusez-moi le mot, mais voilà, ça dépend. Mais voilà, l'avenir politique du Tchad, c'est ça la question? Nous, on est bien avec Idriss Déby, quoi. Notre avenir politique, on est bien avec lui. 27 ans.
Les emplois au Tchad, donc il y a le pétrole, il y a quoi au niveau économique?
Économiquement, il y a. Le Tchad était un pays agricole, donc il exporte pas mal de tout ce qui est bovin et tout
chaleur,
ça.
Il y a quand même pas mal d'agriculture, il y a quoi comme.
Oui, mais c'était dans les provinces et tout ça, là. Le pays est pour une grande partie rurale, donc les gens ils vivent que de l'agriculture, quoi. Et le Tchad est aussi producteur du coton, donc on exploite, on cultive et puis vend du coton. Et voilà, après il y a le secteur du commerce et tout ça, quoi. Mais le pétrole, il vient d'arriver, hein.
Au niveau du tourisme
Tourisme, non, pas vraiment, non. Mais c'est un pays qui, depuis que je connais, depuis que je suis né, il n'y a que des... Voilà, il y a de la guerre, donc il n'y a pas une tranquillité, donc au niveau d'image, voilà, ça n'attire pas vraiment, voilà, des touristes, et rien n'est fait non plus pour faire en sorte que ça attire des touristes, quoi. Et même si on a pris de l'argent pour venir acheter... une page publicitaire à Metz, là. Je ne sais pas s'il n'y a pas des footballeurs ici. Enfin, les gens, ceux qui regardent le football. Bah, c'est le maillot du, des Mets, là, première division, il y a Tchad dessus déjà.
Parce que je n'ai pas compris, explique-moi un peu cette histoire.
Hein?
Je n'ai pas compris cette histoire, explique-moi un peu.
Ah ben, bah, ils ont dit que c'est pour vendre un peu l'image du Tchad à l'extérieur, c'est ce qu'ils ont dit. Pendant que les fonctionnaires n'ont pas leur salaire, en fait, c'est... Voilà.
C'est le gouvernement tchadien qui finance.
Oui. Bah, il y avait le ministre du sport et puis le ministre du tourisme qui était venu faire le lancement. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous révolte, vous ? Qui avez vécu, qui est parti ?
Qu'est-ce qui nous révolte ?
Qu'est-ce qui vous révolte le plus ?
Bah, c'est... Déjà... On n'arrive pas à choisir notre président, c'est déjà ça. Vous votez ce que vous voulez, après le résultat c'est ce qu'on a prévu. Voilà, donc ça déjà, voilà. Et le fait qu'il y a beaucoup d'argent qui sort, mais que ça va juste pour un groupe, et que le reste n'en profite pas, ça c'est des choses qui révoltent, quoi.
Distribution, bien sûr.
Voilà, et... Tout ce qui. Tout, voilà, avec.
Est-ce que le risque, justement, c'est pas qu'il se passe au Tchad, ce qui se passe en Tunisie, ou avec l'arrivée d'Internet, le printemps arabe, comme Ben Ali, je veux dire, le dictateur va être déchu, et après, ça va être un vaste. Ça va pas être évident, quoi, comme la Tunisie aujourd'hui, pour se reconstruire.
C'est vous possible.
Vous n'avez pas peur que ça arrive?
C'est possible. Et de toute façon, si lui, il ne fait rien pour préserver son après. Comment voulez-vous que son après se passe bien? Ben Ali, il a fait exprès. Ces dictateurs-là, ils donnent des, ils font des choses comme ça pour de faire parler. Enfin, on fait comprendre aux gens que non, si lui il s'en va, ça va être une poudrière, ça va être ceci. Mais quand on arrive au pouvoir, il faut qu'on prépare son après. Si on ne prépare pas son après, si on veut tout contrôler, après, une fois qu'on est obligé de partir par la force, ben c'est normal qu'il y ait, voilà, que ça ne marche plus après. Et c'est ce que le nôtre, là, c'est, tout le temps, c'est ce qu'il répète. Dit pour la cohésion sociale, pour la paix retrouvée, il est le seul à pouvoir garantir la stabilité, voilà, tous ces vocables-là. Et voilà, et il reste, et voilà, il se fait redire, et puis il est là. Mais... Quand même, quand on fait 27 ans au pouvoir, quand même.
Vous êtes optimiste pour la suite ou vous êtes pessimiste?
Ben, après, voilà, le pays va continuer, hein, on va dire ça comme ça. Dans quelles conditions, je ne sais pas, mais voilà. Ça va...
C'est très résigné, ça, comme position. Résigné,
non, mais il y a quand même il y a une force qui est dans le pays. Il y a quand même la jeunesse. Il y a des gens qui font des choses. C'est vrai que le problème aussi, c'est que les actions sur place ne sont pas relayées à l'international.
Pour l'instant, mais ça va. Tôt ou tard, ça va venir.
Bah, c'est quand lui, il sera en désaccord avec ceux qui relaient les informations. Là, c'est en ce moment seulement qu'ils vont relayer.
Tôt ou tard, l'information, elle arrivera comme partout.
Et donc, là, on tue des gens manifestent, on leur tire dessus, ils meurent, tout ça, on n'en parle pas.
Et
ils vont faire un truc, je ne sais pas plus quoi, dans les autres pays, quand ça ne va pas, là, si c'est une personne, même si on arrête les manifestants, on en parle, on fait écho comme si c'est, voilà. Mais là, il y a des morts, mais on n'en parle pas. Ça, c'est la liberté de la presse aussi.
Et
ça aussi, nous savons tous ça.
Et les journalistes étrangers, ils n'y vont pas au Tchad?
Ils y vont. Ça dépend. Si t'es en bon terme, tu y vas. Si t'es pas en bon terme, on t'expulse. Hein.
Ah. Et... Si ça se passe bien.
Hein?
Si ça se passe bien.
Ben voilà.
Vous comprenez pas le monsieur qui parle d'Internet. Je vous dis, monsieur, en Afrique anglophone, ça se passe un peu mieux qu'en Afrique francophone. L'Afrique francophone, quand il y a manifestation, on coupe l'Internet. C'est comme ça que ça se passe. Et l'Internet coûte très 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 cher, mais hein, c'est un Internet un peu pas comme l'Internet ici, on n'a rien comme l'Internet. Dans les mots, manifestation, on coupe.
Pour pas que les gens puissent
on coupe.
Communiquer.
Oui.
Et monter un mouvement. Franchite.
Mais dans les pays comme le... C'est nous, c'est assez particulier en termes d'Internet. Ça dit que nous sommes le dernier des pays, même la Centrafrique, le pays pauvre là, l'Internet est encore moins cher et accessible en fait. Dans les pays comme le Cameroun et tout ça, quand tu vas, il y a l'Internet, hein. Même le Niger. Voilà. Et Côte d'Ivoire, ça c'est déjà des grands pays pour nous, mais je cite les petits pays qui sont... Voilà. Mais chez nous, c'est tout verrouillé.
Oui, mais ça dénote aussi la misère et la souffrance.
Oui.
Si on verrouille, c'est qu'il va y avoir un conflit. C'est qu'il va y avoir la révolte du peuple.
Pendant les élections, bon, on a tout coupé, là. Oui. Et puis jusqu'à ce que les résultats soient donnés et qu'on arrive à maîtriser la situation et tout ça, quand on sait que tout est calme, maintenant on lâche un peu et donc les compagnies les téléphonies, là, qui gèrent... l'Internet à travers les téléphones, tout ça, aussi ils sont dans le sac, donc on les coupe et ils sont tout coupés pendant les élections et tout ça. Ils coupent tout.
De toute façon, c'est le président qui gère tout.
Voilà.
D'ailleurs, à partir du moment où il gère la communication.
Donc voilà.
Ça fait partie du jeu.
Et ce qui s'est passé au Burkina, est-ce que ça a une influence sur le Tchad?
Oui, ça a failli. C'est passé par là, mais. Le Burkina, c'est pas pareil que le Tchad, en fait. C'est, sur le plan militaire, c'est différent. C'est-à-dire que c'est pas... au niveau de l'armée, on a quand même des personnes, l'armée est composée dans sa grande partie des différentes ethnies du pays et tout ça, tous les gradés et tout. Juste au niveau de la... Comment ça s'appelait déjà, la garde, les forces spéciales, là. C'est là qui s'est sélectionné, mais l'armée en général, ils respectent les gens, ils respectent quand même la vie des gens.
L'armée du Tchad.
Du Burkina.
Ah, du Burkina, d'accord.
Voilà. Et donc, chez nous, tu manifestes, on te tire dessus.
D'accord.
Et ça, sans sommation, hein, on te tire dessus et personne n'en parle. Voilà, on avance. Et l'armée est composée pour une grande partie des gens de son ethnie. Et donc, c'est compliqué. Et c'est des gens qui, pour une grande partie, sont analphabètes et donc qui ne communiquent dans leur langue. Voilà. Et voilà, les généraux, nous, on a plus des officiers supérieurs que des hommes de troupes chez nous.
Mais c'était délicat, hein. Lors de l'intervention des Français au Mali, il y a eu une alliance avec des Français avec l'armée tchadienne pour libérer le Nord, alors que le gouvernement malien n'était pas d'accord.
Voilà.
Et en fait, les Français ont eu besoin du Tchad parce qu'au niveau territoire, les Français ne connaissaient pas l'aspect rocheux, comment intervenir dans cette zone, et sans l'appui du Tchad, ils n'auraient pas réussi. Quoi.
C'était ça.
Donc c'est vrai que c'est pas évident, et malgré l'opposition, le gouvernement du Mali n'était pas d'accord avec ça, mais c'était le seul moyen de libérer le Mali. Quoi.
C'est ça. Et... D'ailleurs, nous, on a une armée qui on dit, allez, go. Ça va, quoi, ça discute pas. On dit, quand on dit go, ça va. C'est, voilà, comme j'ai dit, c'est des gens qui sont là, c'est des chairs à canon. Voilà, on leur dit, ils vont, quoi. C'est pas une armée structurée, formée et tout ça, qui, à un moment donné, les chefs peuvent dire, mais... voilà, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment on doit aller pour les payer les gens, comment on les paye, et tout ça, cette question n'est jamais, elle n'est pas posée à l'avance, quoi. C'est comme, ils sont partis, il y a pas mal de Tchadés qui sont morts au Mali, par exemple. Mais au moins, cette armée-là, c'est début qui la contrôle, et donc, quand il décide de l'envoyer quelque part, il l'envoie, voilà. Il prend le téléphone, il dit, bon, demain matin, là, voilà, deux avions, vous partez dans tel coin, ils vont aller.
Alors, je te complète toujours parce que l'IBC a parlé de l'armée. Un exemple. Comment vous pouvez comprendre que toute cette armée-là, l'armée française dans les pays francophones, la plupart de ces armées sont formées par la France. Comment comprendre qu'aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après, tous ces pays-là, il y en a au moins 15 ou 18. Ils n'ont jamais eu une armée forte, une armée capable de défendre des territoires, de défendre la population. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut que la France intervienne. Mais par contre, c'est la France qui forme ses militaires. Vous voyez ?
À votre avis, ça vient de quoi ?
Avec Fabien Compas, c'est un problème de pognon, madame. Hein ? C'est un problème de pognon. Ah. Parce que quand la France forme, ça paye. Donc pendant des années, s'ils avaient formé par exemple des formateurs, ces formateurs-là devaient rester aussi pour former les autres chez eux. C'est ce qui n'est pas le cas.
Non, mais en matière de démocratie, hein, il faut se dire que la colonie française, les pays qui ont été colonisés par la France, ça n'avance pas. Hein. Ça n'avance pas du tout. Et voilà, il faut que la France lâche du lest, quoi. Parce que voilà.
Mais est-ce que les pays anglophones avancent beaucoup ?
Si.
Oui.
Si. Bah,
je sais pas,
le Nigeria ou...
Bah oui, Nigeria.
Oui,
Nigeria, ça avance.
Oui.
Les élections...
Oui, mais le Ghana, c'est une espèce de paradis fiscal, c'est du hyper-libéral, néolibéral, ok.
Oui,
oui. C'est ce que j'en ai entendu, là. Hein.
Oui. Ça me laisse respirer. Ce qu'il y a, c'est comme c'est quoi ? Quand vous prenez les ex-colonies anglaises, les Anglais ont un peu, se sont un peu retirés. Mm-hmm. Ils ont laissé un peu une certaine autonomie. Mm-hmm. Par contre, moi je ne suis pas du Tchad, moi je suis du Congo. Je suis colonisé par les Belges. C'est pareil. Mm. Donc, ni les Belges ni les Français, quand ils sont là, ils ne lâchent pas le morceau. Mm. Quand tu prends par exemple ces soldats qui imposent, celui-là va être le président de la République. Quand tu prends son pays Tchad, depuis que le Tchad existe, tous ces présidents qui sont venus au pouvoir sont venus par les armes. Et qui est-ce qui les armes ? Les armes, c'est la France qui les armes.
Et ça, c'est vraiment pas le cas dans les pays anglophones.
Ah non,
non.
Non, c'est pas le cas.
Bah, ça tourne là au niveau des élections présidentielles dans ces pays-là. Ça tourne. Même si il y a toujours. C'est comme ici, on sait que les présidents, ils arrivent, mais on sait comment ça fonctionne aussi, quoi. Mais au moins, est-ce que ça tourne ? C'est-à-dire que dans les pays comme les nôtres, là, la seule façon de redistribuer la richesse du pays, c'est que les présidents tournent. Comme ça, on change des clans, on change des camps. Ça permet à tout le monde de passer devant la marmite, quoi. Mais si, c'est pas possible. Si c'est le même qui reste, si t'es pas d'accord avec lui, tu es écarté, mais définitivement.
Et puis, ouais, de nouveau, moi, j'ai vécu au Gabon.
Oui.
Et on disait à l'époque que c'était mieux, que c'était Omar Bongo, c'était mieux qu'il reste en place comme ses ministres. Parce que quand il y a un changement, tous les ministres veulent s'en mettre plein les poches. Il y avait quand même 26 ministres à l'époque. Et tous voulaient et les maisons, et les femmes, etc. Donc on avait meilleur temps de garder les ministres plutôt que de percuter. Donc j'imagine que c'est encore comme ça à l'heure actuelle.
Garder parce ou pas garder, moi je...
d'un président, d'accord, mais... Il ne faut pas que tout le reste change à côté.
Bah, c'est... Oui, bonsoir. C'est pas que garder ou pas garder, c'est pas ça. C'est pas ça la solution, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont nommés pour faire leur boulot, ils doivent faire leur boulot sans pouvoir prendre l'argent qui appartient au peuple, quoi. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas à dire que s'ils s'en vont, ils vont ramasser. Donc, il faut... Il dit ça souvent. Il dit non, mais celui-là qui est déjà en place, il s'en est déjà mis plein les poches. Et donc, du coup, il ne va pas... prendre, si on prend quelqu'un, un autre affamé qui arrive, il va le temps qu'il s'en mette plein les poches avant de pouvoir penser au peuple, bah du coup il va, mais ça va, si c'est comme ça que doit évoluer la réflexion, on ne va pas s'en sortir, quoi. On ne va pas s'en sortir. Le ministre, le président, s'il est là, si c'est quelqu'un qui fait bien son boulot, bah il le nomme, il reste, il fait son boulot, quoi. Après, pour le reste...
C'est vrai que les transitions sont jamais radicales, on ne passe pas du blanc au noir comme ça. C'est le problème, c'est comme vous disiez, ceux qui étaient opposants un jour, enfin, c'est des anciens du bout du pouvoir, mais on prend le cas de la Russie aujourd'hui, les grands milliardaires russes, c'est les anciens chefs des partis de l'époque communiste. En Chine, c'est la même chose. Je veux dire, on ne change pas complètement de parti. On a l'impression de changer de type de gouvernement, mais en réalité, les puissants restent les mêmes.
Donc, nous...
Et les dernières élections, c'était quand?
C'était au mois de mai dernier, là.
Au mois de mai.
Oui.
Donc là, il n'y a pas de surveillance, contre ces élections.
Les surveillances
et tout ça, oui.
Toujours des observateurs internationaux. Des observateurs de l'Union européenne, les observateurs de la francophonie, les observateurs de l'ONU, et puis les nationaux. À chaque élection, ils sont là.
C'est pas bien.
Après, ils envoient le rapport, tout est nickel, c'est bon.
Ils envoient un rapport, ils disent c'est pas bien.
De toute façon, comme on disait là, ça dit que ces pays-là, aucune personne ne peut dire qui peut gagner les élections. Ça dit que tous ceux qui veulent gagner les élections présidentielles, ils passent d'abord par la France, les pays colonisés, enfin les ex-colonies, la France par exemple. Ça dit, et même déjà ça fait que les gens, il manque de confiance, il y a eu manque de confiance. Ça dit que c'est pas possible que si, est-ce que, oui, mais est-ce que la France nous soutient? Oui, mais est-ce que... Déjà ça freine l'élan dans les actions des gens, en fait. Rien que ça. On est, les opposants, tu ne gagnes pas une élection si tu n'es pas soutenu. Il faut que tu passes par les élections, c'est gagné à Paris, comme on dit chez nous. Les élections, c'est gagné à Paris, pas dans ces pays-là.
Je peux bien imaginer que c'est pas simple. Je veux dire, imaginez que vous partez plein de bonne volonté en disant, tiens, je vais changer les choses, on ne vous laissera pas faire. Il y a trop d'intérêt.
Ah ben c'est ça, il y a trop d'intérêt.
Il ne faut pas croire qu'on est une démocratie.
Et le Gabon, justement, un pays comme le Gabon, là, avec toute la richesse qu'il a, un petit pays avec 2 millions, je ne sais pas combien de populations, là, ça dit que même la richesse du pays, là, on prend comme ça, on passe même devant maison par maison, là, pour distribuer, là. Tout le monde va bien vivre. Mais ces pays-là, en 1974, il est, en termes d'indice économique et tout ça, là, il est même devant les pays comme les Corées, les machins, tous ces pays asiatiques qui sont allés très loin. Mais le pays est devenu... Quand il suffit juste de sortir de Libreville, il n'y a plus de routes bitumées. On exploite le pétrole là, mais on n'arrive pas à bitumer les routes. Et pendant 40 ans, ce monsieur-là, il est là, mais on n'a jamais entendu qu'il était un dictateur.
Il me pourtait compléter
les soutenus.
Hein?
Il est venu mourir en Espagne.
Oui.
Là, avec ce problème, il pouvait quand même construire un hôpital là-bas, bien équipé.
Voilà, c'est ça.
Il faut compléter par rapport aux élections. Comment vous pouvez comprendre que les élections se passent en Afrique et que les serveurs, c'est tout à Paris. Donc, vous voyez,
donc,
c'est tout un problème. Les francs CFA,
oui.
14 pays africains, 15 qui sont dans la zone CFA. Les francs CFA dépendent de la France. Donc, si ces 15 pays ont envie d'importer, il faut la Banque de France. Chaque année, il y a des millions de francs, des millions d'euros que ces pays-là versent à la France, écoutez-moi bien, pour payer l'indemnité des anciens chefs d'État français. À commencer par Giscard, jusqu'à Sarkozy. Chaque année.
Encore maintenant.
Oui. Après, on vous dit l'Afrique, bon non, l'Afrique n'est pas pauvre. On a pauvre l'Afrique.
Le franc CFA. La France même est partie dans l'euro. Mais il maintient quand même le franc CFA. Pendant que, ça dit que les 15 ministres des Finances de ces pays-là, ils viennent pour discuter avec le ministre des Finances de la France. Pour l'argent dans leur pays. Ils n'ont pas le droit de discuter directement avec la Banque Centrale Européenne. Il faut qu'ils s'arrêtent en France et c'est la France qui prend le relais pour aller à la Banque Centrale Européenne pour discuter. L'argent est émis ici, en France. C'est la France qui décide combien de billets on sort pour tel pays, combien de billets on sort pour tel autre.
Ça, les médias le disent.
Il y a un ministre, un ancien ministre du Togo qui a écrit un livre
sur le France Inter. Oui, il est intervenu sur France Inter il n'y a pas longtemps. Là, oui. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ce qui...
C'est ça, et ça commence à en parler. Pour la première fois que que France Inter en parle.
Oui.
Ça commence.
Oui, mais écrire un livre, c'est une chose. Ce qui est bien, ce n'est pas d'écrire un livre. Ce qui est bien, c'est de sortir des Français.
Oui, mais
il informe quand même.
Il faut construire la réflexion puis les actions
oui,
tous les pays.
C'est pas le premier niveau qu'on a fait. Je suis pas contre, c'est pas le premier. Mais ce qu'il faut, madame, il faut sortir du français.
Oui. Ben oui. Alors, il lui disait, mais qu'est-ce que vous proposez? Puis il proposait différentes choses. Effectivement, que ça soit plus mis, les billets soient plus imprimés en France.
Voilà, ne serait-ce que symboliquement, que les billets soient imprimés là-bas, quoi. Ça, c'est déjà symboliquement, c'est, ça peut donner des. Voilà, ça peut traduire.
C'est comme on parle de France, c'est facile. Pour le changement. L'information, c'est l'une des raisons pour lesquelles Kadhafi a été tué. L'une des raisons. Kadhafi. Ouais. Il est mort. L'une des raisons pour lesquelles il a dit c'était ça. C'est lui était prêt à financer l'opération pour changer le franc CFA. C'est pas une, mais il y a l'une des raisons, il y a plusieurs raisons. Quand vous prenez les 16 satellites qu'il y a là-haut africains, quand on regarde les Africains aujourd'hui, parce qu'avant, tu as un diamant, tu veux par exemple appeler quelqu'un, par exemple à Kinshasa, il faut qu'il passe d'abord par ici.
Voilà. Avant d'appeler.
C'est le seul, dans les 16 satellites africains aujourd'hui qu'on peut appeler direct, c'est lui qui a le satellite là-haut. Bon, il y a plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est de prendre des francs CFA.
Ça fait que quand il y a un conflit, par exemple, au niveau, on coupe, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y avait un conflit entre Gbagbo et Ouattara, là, du coup, ils ont tout coupé, c'est-à-dire que tous les canals, machin, tous les trucs là qui passent, et c'est le satellite qui gère le truc à partir d'ici, donc ils ont tout coupé. Et le camp de Gbagbo ne peut pas communiquer à travers ces satellites-là pour parler ailleurs. Et donc, c'est orienté que pour l'hôtel du Golfe, pour Ouattara, par exemple. Et donc, tous les opérateurs de téléphonie Orange, machin, tout, voilà, ils sont dedans. C'est difficile, hein?